Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Les autres. Du Trisac. L'original.
Radio.
Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, on est mardi 27 octobre 2020, j'espère que vous allez bien, malgré les mauvaises nouvelles, malgré un autre confinement de 28 jours, 28 mois, 28 ans. Là, on va voir où ça nous mène. Oui, c'est un peu décourageant, mais il faut être résilient, il faut être fait fort, il faut être des adultes. C'est pire ailleurs. En France, c'est l'enfer, là, 50 000 cas par jour de tests à la COVID. Alors, faut pas trouver ça si pire. Là. Faut être bon, faut tenir le coup. On aura avec nous à 11h05 Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, et aussi à midi on aura Nathalie Normandeau qui est libre comme l'air. Qu'on a décidé, il n'y aura pas de procès, malgré les accusations qui ont eu lieu. Elle a été arrêtée en mars 2016. Et puis, ben là, ça a tombé, il n'y aura pas d'appel, rien. Elle est libre comme l'air, elle est disponible pour une job, je pense. On va lui parler à midi. Mais tout d'abord, on va joindre Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour.
Bonjour, M. Détrisac.
Un autre 28 jours. Comment vous avez accueilli la nouvelle hier? Le saviez-vous avant le 5 heures de la conférence de presse de 17 heures?
Écoutez, il y avait suffisamment de signaux, je pense, pour que on n'était pas surpris. Et je pense que beaucoup de gens dans le milieu n'étaient pas surpris. La question, c'était un peu ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire, est-ce qu'on annonce un mois avec possibilité de le revoir dans deux semaines? Ou est-ce qu'on annonce deux semaines avec possibilité de le revoir dans deux semaines? Je pense que le gouvernement est allé de la façon prudente, c'est-à-dire qu'on annonce un mois.
Ouais.
On a vu ces derniers jours une certaine amélioration et donc avec un signal clair que si on est capable d'obtenir des meilleurs chiffres, ben dans deux semaines, on pourra reviser. Mais c'est clair que ça touche beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà, je dirais, pas si optimiste. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur une période des fêtes dans le commerce, aussi dans la restauration, dans plusieurs types d'activités où ils font une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel.
Alors là, on sacrifie l'Halloween en espérant que on parle en termes de commerce là, Monsieur Leblanc, là, parce que je vous lisais dans la presse, vous dites que le centre-ville de Montréal est un patient aux soins intensifs. Là, faut espérer, faut se préparer au pire puis espérer le meilleur.
Ben oui, puis il y a des choses qui doivent être faites. La première chose, je l'ai dit, quand comme société, on demande à un groupe de se sacrifier pour l'ensemble des gens, ben il faut compenser ces gens-là. On l'a eu dans la discussion, dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Là, tout le secteur laitier s'est senti un peu sacrifié au nom de l'intérêt global d'avoir cette entente-là avec les États-Unis. On a tous reconnu, OK, il faut les soutenir explicitement, spécialement, parce que ce secteur-là est touché. Ben là, nos restaurateurs, tous les commerces qui doivent fermer, on leur demande d'être fermés dans l'intérêt collectif. Alors, il faut que collectivement, on les appuie davantage. Mmh, mmh. Et donc, dans les prochains jours, on va demander au gouvernement d'augmenter la générosité des aides pour ces commerces qui restent fermés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, collectivement, d'être très, très, très alerte dès qu'on pourra d'encourager nos commerçants. Le dernier point, ben c'est un message que je dis depuis quelques semaines. Les gens me trouvent un peu parfois naïf, mais je dis il faut soutenir notre centre-ville. Je demande aux gens, à tous les Montréalais et de la région métropolitaine, venez au centre-ville faire des achats. Ça va être important au sortir de la pandémie que notre centre-ville soit prêt à repartir comme il faut.
Mais votre appel, M. Leblanc, moi je le comprends là, parce que c'est quand même le moteur économique du Québec, là, Montréal. Mais votre appel, là, il est, je dirais, interrompu par la réalité, parce que ce qui nous rattrape, par les chantiers, par la mauvaise gestion du centre-ville, par des choix qui ont été faits sur plusieurs années, pas juste Valérie Plante, là, Denis Coderre, Gérald Tremblay, nommez-les, là, d'avoir laissé aller le centre-ville, d'avoir laissé aller les chantiers à perpétuité, d'avoir organisé un mauvais système de stationnement. Là, je viens de voir, là, M. Leblanc, dites-moi ce que vous pensez de ça. On est au coin de Berry et Sainte-Catherine. au coin de Sainte-Catherine et Saint-Hubert, si je veux tourner à droite, là, il y a un nouveau panneau qui me l'interdit.
Écoutez, je veux pas partir là-dessus. J'ai eu un ticket
la semaine
dernière. Je n'ai eu un ticket moi-même parce que j'ai tourné. J'arrivais de Saint-Antoine, j'ai tourné sur Berry comme je fais depuis 20 ans.
Ouais.
Puis le policier qui m'a donné mon billet m'a dit, Monsieur Leblanc, on a changé ça il y a 2 jours.
Ben oui.
J'étais hors de moi, évidemment. Je me suis calmé par la suite. Mais effectivement, on a tous une grande frustration. Vous l'avez dit, c'est pas juste l'administration en place. Moi, je pense que l'administration a exagéré sur certains travaux. Ils ont voulu accélérer pendant la pandémie, mais ça a eu un effet pervers, c'est que même si on essayait d'attirer les gens étaient rebutés non pas seulement par une peur de venir au centre-ville en transport en commun, mais étaient rebutés par si j'y vais en voiture, je sais pas comment ça va se passer.
Ben oui.
Là, je pense qu'on aurait pu mieux faire, puis en même temps, bon, l'administration en place va expliquer les difficultés qu'elle a reconnues. Elle a pris une bonne décision la semaine dernière, là, je sais pas si les gens l'ont réalisé, mais là, maintenant, le stationnement est gratuit sur les rues au centre-ville, la fin de semaine et les soirs de semaine durant toute la période jusqu'au temps des fêtes. Donc ça, c'est un signal très positif. Le stationnement, c'est pas un enjeu. Il y a moins de monde au centre-ville. On trouve des places, surtout en périphérie.
Non, mais autour, attendez, M. Leblanc, autour de la rue Sainte-Catherine, là, qui est en travaux depuis 1983, c'est invivable. Ça doit être pire pour les commerçants, là.
On est d'accord. Personne ne devrait chercher à se stationner sur la rue Sainte-Catherine puis essayer de vous mettre à un ou deux coins de rue nord-sud puis vous allez trouver.
Mais qui a le goût, mais qui a le goût d'aller sur la rue Sainte-Catherine quand c'est en travaux depuis si longtemps?
Écoutez, c'est clair qu'il y a des tronçons là où les travaux vont se terminer bientôt. Là. Dans la partie est du centre-ville, on voit que ça progresse bien. Dans la partie plus centrale, là, maintenant, c'est du vrai chantier difficile. Je suis pas en train de dire aux gens, là, payez-vous une partie de plaisir, puis c'est comme aller sur Broadway à New York. Là.
Non, non, c'est une course à obstacles de venir à Montréal.
Ben, je le sais. Et en même temps, à un moment donné, ce que je dis aux gens, c'est OK, ben forcez-vous pareil. C'est plat. Les gens me disent, Michel, tu essaies d'attirer du monde en leur disant que ça va pas être le fun.
Ouais.
Non, j'essaie d'attirer les gens en leur disant c'est nécessaire. On doit le faire. On doit soutenir nos commerces favoris là où on allait avant, là, puis qu'on les connaît. Ouais. Ben, allez-y encore.
Mais là, vous avez vu aussi le reportage sur le village gay ici, là, dans l'Est. C'est pas drôle, là. Les commerçants, l'itinérance, les sans-abri, la toxicomanie. Nous, on est à côté de ça, là, puis en plein jour, on voit ce qui se passe. Ça donne le goût à personne de venir au restaurant ou de venir magasiner sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est. Tu sais, il n'y a pas juste l'Ouest de la rue Sainte-Catherine, là.
Non, mais vous avez raison. C'est pour ça que je dis, même si on essaie d'attirer un peu d'achalandage, ça va prendre une générosité plus grande de la part des programmes des gouvernements. On est en discussion avec eux, là. Et je dirais, il fut une époque durant l'été où j'essayais de convaincre les gouvernements que c'était grave ce qui se passait. Là, ils le savent. Ils en sont conscients. La question, c'est de trouver les bons paramètres, les bons critères, les bons niveaux d'aide.
Ouais.
Et là, dans les prochains jours, c'est ça les discussions qu'on a. C'est clair que tout le monde se préoccupe des centres-villes, puis il y a celui de Montréal, mais il y en a d'autres au Canada. Donc, le gouvernement canadien est très conscient aussi qu'il doit agir. Alors, on aimerait tous que l'aide soit déjà arrivée.
OK, mais là, ça, c'est important, là, monsieur Leblanc. Là, vous parlez de l'aide à Ottawa. Mais à Ottawa, s'ils attendent, je sais pas, ils attendent quoi pour réagir ou pour lancer une aide réelle. Mais à Montréal, le taux de taxation, la taxe foncière, là, est plus élevé que n'importe quelle autre ville au Canada.
Ben, vous mettez le doigt exactement sur des paramètres qu'on regarde. C'est-à-dire que là, les gens qui paient des taxes foncières comme si les affaires allaient bien, là, ça n'a pas de sens. Le ministre Fitzgibbon, il y a quelques jours, a annoncé des mesures qui aidaient les commerces qui ont été obligés de fermer, donc les restaurants, par exemple. Mais là, il va falloir être plus généreux sur les autres commerces aussi. Et donc, il va falloir regarder comment on compense, vous avez raison, sur la taxe foncière, qui est très élevée, qui demeure quelque chose qu'on doit payer. Puis la ville de Montréal, elle n'a pas la possibilité de dire, moi, j'ai pas besoin qu'on paye ma taxe foncière.
Ben oui.
Parce que la ville de Montréal, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas faire de déficit. Elle a besoin de ces revenus-là.
Ouais.
Donc, c'est aux autres paliers de gouvernement de s'assurer qu'on compense bien et qu'on aide les commerçants, tout en faisant en sorte que la ville de Montréal puisse avoir ses revenus.
Hey, on n'est pas sorti du bois, hein? Puis là, il y a les tours à bureaux, là. On l'a vu dans un reportage du Journal de Montréal. Le pourcentage est assez élevé, là, des locaux vacants, là, dans les tours à bureaux.
Oui. Ben, c'est ce qui se passe. C'est que présentement, dans le fond, les entreprises ont des baux. Ils peuvent pas se défaire de ces baux-là. Ils ont des espaces inutilisés qui rentrent disponibles en sous-location. Mais évidemment, ça se retrouve aux portes pour sous-louer.
Ouais.
Donc, il y a un défi. La question que tout le monde se pose, et nous, on a une opinion assez claire là-dessus, c'est au sortir de la pandémie, quel sera le rôle des centres-villes? Moi, je le dis, je reçois énormément d'informations de dirigeants d'entreprises qui ont évolué au cours des derniers mois. Durant l'été, les gens découvraient à quel point le télétravail était possible. Il y a des entreprises qui le permettaient pas ou qui le permettaient peu, qui ont complètement changé leur approche. Alors ça a été la découverte de l'été. La découverte de l'automne, c'est la perte de productivité qui s'installe avec le temps dans les équipes par le manque de tout ce qui peut se produire quand on se rencontre en personne. Et là, moi, j'ai des dirigeants d'entreprise qui disent, là, Michel, c'est clair, je veux ramener mon monde. Je veux pas les ramener tout le temps. Mais dès que je vais pouvoir, je vais ramener mon monde pour qu'ils travaillent ensemble, en présence, dans des bureaux.
OK, avant qu'on se quitte, M. Leblanc, oui? Qu'est-ce que vous pensez de ces matamores là, qui veulent rouvrir les gyms jeudi?
Je pense que c'est une erreur. Moi, je pense qu'à aucun moment on doit rentrer dans de la désobéissance civile. Le gouvernement prend des décisions pour des bonnes raisons. On peut être en désaccord, on peut demander plus d'informations, mais à la fin, on doit accepter ces décisions-là. Le gouvernement prend ces décisions-là pour des bonnes raisons. Et on devrait jamais, ni le milieu des affaires, ni les individus, tomber dans de la désobéissance civile.
Est-ce qu'on est loin d'un point de rupture là pour les commerçants à Montréal?
On est dans la situation très délicate où beaucoup de commerçants vont fermer. Donc, si le point de rupture, c'est est-ce que le moral est encore bon pour prendre des risques, pour continuer, pour brûler ses liquidités? La réponse, c'est non. Les commerçants arrivent au terme de ce qu'ils sont capables de soutenir. Ils voient leur niveau d'endettement qui augmente. Et donc, on va devoir les aider davantage, c'est clair. Sinon, le point de rupture, comme vous le décrivez, c'est des commerces qui ferment, un centre-ville qui est placardé, qui devient moins sécuritaire peut-être et qui devient moins intéressant quand ça va repartir, c'est clair.
Bon, ben, très bien. On se laisse là-dessus. Michel Leblanc, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci.
Merci.
Bon après-midi.
Au revoir.
Bon matin.